Radio Canut vous présente dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Junier Jean-Pierre, Les délires de la sublimation. Production, mise en scène, Junier Jean-Pierre, enregistrement CVRP.
Madame, je suis vraiment ce que je vous ai dit. Elle pose sa tasse et lui dit. Alors, comment une personne comme vous est venue à mon invitation? Vous m'avez invité et l'on ne peut refuser une invitation d'une si jolie femme. Elle sourit et lui dit. Belle, pas tant que ça. Et je suis une femme veuve et plus très jeune. Vous êtes encore très jeune et belle, si je peux me le permettre. « Merci. » Ils ont fini de boire leur thé. Elle lui dit, « Allons nous asseoir sur ce canapé. Nous serons mieux. »
Asseyez-vous.
Une fois assis tout près d'elle, il sent son odeur et cela l'enivre. C'est la même chose que lorsqu'il dansait. Elle lui dit « Je n'ai pas eu de chance. Mariée très jeune, avec un mari que mes parents m'avaient choisi, après quelques années de mariage, qui ont été plutôt des années de mondanité, mon mari meurt. Et me voilà enfermée jusqu'à la fin de mes jours dans le veuvage. » Personne ne vous oblige, vous pouvez vous remarier. Elle soupire et lui dit. Qui voudrait d'une femme de mon âge? Il y a tellement de jeunes filles belles et riches. Il la voit triste, ose lui prendre la main. Elle ne la retire pas. Il lui dit. Mais vous êtes très belle. Elle lui répond. plus très jeune, ne dites pas de bêtises. Il lui baise la main. Elle frémit. Cela fait si longtemps qu'aucun homme ne l'a touchée ou baisée. Elle ne sait pourquoi, mais depuis quelque temps, elle se sent surtout attirée par les jeunes hommes. Sans doute que pendant sa genèse, elle n'a pas eu la chance d'en avoir. Elle a tout de suite été offerte à un homme déjà bien mûr. Cela ne l'a pas gênée jusqu'à maintenant, mais... Il voit son abandon, l'embrasse encore la main, en le tenant bien serré dans la sienne. Il le regarde bien, les yeux dans les yeux. Elle dit, « Je vais faire jouer le rôle de votre héroïne ?» Il lui répond, « Non, pas du tout. Vous êtes beaucoup plus jeune, et là, je vous aime. Moi aussi. Ne dites pas de bêtises. Nous connaissons à peine. » Il lui dit, « Cela suffit, la preuve, vous aussi. Ne dites pas de bêtises. » Il lui caresse sa main et lui dit en même temps, « Laissez-vous aimer. Car je sais que vous ne demandez que ça. » Il se penche et lui donne un baiser sur la joue. Puis, pris de vertige par son odeur, son corps, qui sent sous sa robe, il l'embrasse sur les lèvres. Elle n'a pas eu le temps de réagir. Après le baiser, ils sont tous deux rouges et confus. Elle défroisse sa robe et lui dit, « Je crois qu'il est temps que vous partiez. » Ils se lèvent tous deux. Elle le conduit jusqu'à la sortie de la pièce, ouvre la porte et lui dit, « Au revoir, monsieur. » Il est confus et lui demande, « Nous reverrons, n'est-ce pas ?» Elle lui dit, « Je crois que vous avez quelque chose dans votre poche qui est à remettre sur la commode. » Il rougit et sort de sa poche la montre. Elle lui dit, « C'est quelque chose auquel je tiens beaucoup. C'est le bijou de ma famille. » Elle tend la main, met la montre dedans et sort humilié, honteux.
Oui. Tu vends bien ?
Oh, oui, c'est bon.
En se dirigeant vers chez lui, les joues en feu, furieux, honteux. Comment je puis faire ça ? Je l'ai pas fait exprès, c'était comme ça, malgré moi. Elle va me prendre pour un voleur et tout Paris va le savoir. Ce sera terrible. Je n'oserai plus me montrer nulle part. Mon Dieu.
Merci. Ah, bonjour mon ami, comment allez-vous ?
Oh, monsieur le docteur, ma jambe va beaucoup mieux, vous savez.
Arrivé chez lui, il va retrouver sa sœur au salon. Nous rentrons à Lyon. Elle regarde bien surprise et lui demande, « Qu'est-ce qui t'a fait changer d'avis ?»« Rien, je veux rentrer à Lyon. D'ailleurs, toi aussi. » Elle se lève pour aller vers lui. Il lui dit, « Oui, je suis contente de rentrer. » Il lui dit, « Oui, comme cela tu verras Jules. Pourquoi tu dis ça ? Parce que vous êtes toujours ensemble. » Elle ouvre les épaules et lui dit, « Peut-être, mais je suis partie avec toi. » Il soupire et lui dit, « Bon, de toute façon, il faut partir. Allons faire nos affaires. » Elle est surprise et lui demande, « Nous prévenons pas Paul ? Non, surtout pas. » Elle lui demande, « Tu n'aurais pas fait une bêtise, toi ? Pourquoi est-ce que tu me demandes ça ? Parce que ton départ ressemble à une fuite. Si l'on l'apprendrait, l'on penserait que tu as quelque chose à te reprocher. » Si on a quelque chose à se reprocher, l'on ne fuit pas, l'on part, en faisant ses adieux, comme si de rien n'était, comme des gens qui sont sans reproche. Réfléchit une seconde et se dit qu'elle a raison. Dès que les gens vont connaître l'histoire que Mathilde va leur dire, s'ils apprennent qu'ils sont partis, ils vont tous dire que c'était vrai. Mais s'il reste un peu, il y aura doute. Il lui dit, « Nous partirons un peu plus tard. Restons. » Elle lui demande, « Tu veux me dire ce qui s'est passé ? » ?»« Allons nous asseoir sur le canapé. » Et il lui raconte tout. Une fois qu'il est fini, elle lui dit « Il faut que tu lui écrives et un petit mot d'explication. Ensuite, tu dois le plus vite possible écrire une nouvelle pour lui démontrer que tu es bien un écrivain et pas un aventurier. Tu as raison. » Charles-André écrit d'une façon simple et vraie ce qui est arrivé, sans chercher à trop s'excuser. La porte s'est ouverte. J'avais la montre à la main pour la regarder et d'instinct, je l'ai mise dans ma poche sans réfléchir. Il envoie tout de suite la lettre. Mathilde la reçoit et la lit dans sa chambre. Elle est touchée par la sincérité de la lettre. Le pauvre, comme il a dû avoir honte, et décide de lui écrire. Et il lui dit qu'il peut venir la voir le lendemain pour le thé et qu'il l'ait pardonné. N'en parlerons plus. Lorsqu'il reçoit la lettre, il est fou de joie et court au salon dire à sa sœur « Elle me pardonne !» Apolline est contente que le scandale ait été évité. Mais elle est malheureuse malgré elle de savoir que son frère va avoir une liaison amoureuse. Je l'aime lui aussi. Après Jules, c'est lui que j'aime. Pourquoi le destin me fait-il aimer mes frères ? Charles-André va au rendez-vous de Mathilde. Elle lui dit, en le recevant dans son salon, « Venez, grand enfant, et ne faites plus de bêtises. » Il passe l'après-midi à prendre le thé et à discuter de choses et d'autres. Mais en même temps, lui ne pense qu'à la prendre dans ses bras et à l'embrasser. Il la trouve merveilleusement belle. Elle aussi le trouve beau. Alors, une fois sur le canapé, il lui prend la main, puis la taille et ses lèvres. Dans ses bras, elle oublie tout, même son âge. Lui, pas vraiment. Il se rend compte, malgré lui, c'est que, en la prenant à la taille, elle est un peu plus large que celle qu'il a l'habitude de prendre. Mais l'amour est là et va outre. Au bout d'un moment, elle lui dit « Il faut malheureusement nous quitter. » Et continue. « Il faut plus que l'on nous voyons ainsi. Devons faire attention. Je ne peux vous recevoir constamment. » On risquerait de jaser. Vous ne voulez plus me revoir ? Oh, ne dites pas cela, mon enfant. Mais nous devons faire attention. Il est triste, car il croit qu'elle veut faire de lui son amant, et lui souhaite qu'officialiser la chose. Il lui dit, mes sentiments sont sincères, et je suis prêt à vous rendre heureuse devant tous. Elle lui dit, étourdie, je vous remercie, mais c'est un peu tôt. Il faut y penser, et puis il y a l'âge et la famille. Cessez de vous faire du souci avec l'âge. Je vous aime comme vous êtes, et pour ce qui est de ma famille, Je suis major, et vous aussi. » Elle soupire et lui dit « Oui, bien sûr, mais il faut bien réfléchir avant de faire une chose si sérieuse. Et si nous connaissons à peine, vous n'avez pas confiance en moi ?» Elle lui dit « Où que vous ayez confiance en vous, vos sentiments peuvent vous tromper. Attendons un peu pour mieux nous connaître. » Il la serre fortement et lui demande « Nous ne verrons plus alors ?» J'ai pas dit cela, mais d'une façon plus discrète. J'ai des amis, des domestiques qui m'observent. Paris est un petit village pour des personnes comme moi. Alors que devons-nous faire? Le matin, je fais du cheval au bois. Vous m'accompagnerez. Je vous donne rendez-vous place de l'Étoile à 10 h. Bien. Et ils se voient chaque matin. Charles-André a loué un cheval. Ils vont au bois de Boulogne, au pas, l'un côté de l'autre, se parlent de tout et de rien. Et lorsqu'ils sont éloignés des autres, ils s'arrêtent, descendent de cheval pour se prendre dans les bras. La jeunesse de Charles-André le rend fou de désir. Ses lèvres ne lui suffisent pas. Il lui faut tout. Le désir de la posséder est très fort. Elle aussi ne demanderait que cela. Après l'avoir embrassé dans un bois, elle lui dit « J'aimerais devenir votre mari. » Les baisers ont fait qu'agrandir ses désirs. Elle lui dit « Attendons un peu. Lorsque vous serez sûr de votre amour, et que moi, je vous connaîtrai mieux, nous pourrons prendre une décision. Mais je suis sûr de mon amour. Et vous, vous n'avez qu'à me demander, me poser des questions pour savoir qui je suis. » Elle lui dit, « Écrivez. Vous voulez que j'écrive mon histoire pour que vous la connaissiez ? Bien soit, je le ferai. » Et dès le soir, dans sa chambre, il se met au travail. Malheureusement, ce n'est pas si simple, parler de soi. Tout dire. Et peut-on tout dire? On se trouve trop insignifiant, misérable. Il a beau faire une liste de tout ce qui s'est passé dans sa vie, il n'y a rien, rien de bien. Il ne voit que le résumé d'une vie médiocre. Et il en a honte. Que faire? Que faire? Peut-être transformer les choses. Je vais raconter l'histoire que j'ai eue avec la femme pendant les vacances à Biarritz. Je viens dire, mais je vais dire que ça s'est passé en Espagne. Que faire? Peut-être transformer les choses. Je vais raconter l'histoire que j'ai eue avec la femme pendant les vacances à Biarritz. Je vais dire que c'est passé en Espagne, que j'étais amoureux d'une jeune danseuse de flamenco qui vivait avec son père, très jaloux. Nous étions obligés de nous cacher pour nous voir. Nous aimions follement. Je l'aurais rencontrée à une soirée où elle dansait dans un café du port. tout à coup, elle a un malaise. Comme j'étais tout à côté, je me penche, la soulève, évanouie, et l'amène à sa cabane de pêcheur où elle habite avec son père. Sur le chemin, dans ses bras, elle reprend connaissance. Je vois de grands yeux noirs me fixer. Son corps est tout menu, il ne pèse rien. Elle me demande pourquoi je la porte, je le lui dis. Frappe à la maison du pêcheur. Nous ouvre une vieille servante, grosse et petite. Déposons la jeune fille dans son lit. M'en remercie et je pars. Le lendemain, je reçois à mon hôtel où j'étais avec mes parents une lettre remerciant et me donnant rendez-vous à la cabane le soir. Le père veut remercier. J'y vais. Le père, un petit homme maigre, me reçoit. Il me remercie, la jeune fille aussi. Puis, nous passons la soirée ensemble. Elle danse pour moi et me regarde avec des grands yeux noirs. Je suis amoureux fou de sa taille menue et de ses yeux. Nous revoyons souvent. Je la vois danser le soir au café et la journée sur la plage où elle ramasse des coquillages. Je suis de plus en plus amoureux. Et un jour, en jouant, nous n'avions que 14 ans, nous roulions sur le sable, et là, elle est sous moi. Je suis pris de fougue, et je lui donne un baiser. Elle s'est débattue et m'a giflé. Je me relève, elle se sauve en courant. Je suis désespéré. Elle me boude pendant plusieurs jours, s'éloigne lorsque je vais vers elle. Et un jour, elle me prend par la main, me caresse les cheveux et nous allons nous promener sur la plage. Sans qu'elle me le dise, je comprends. Elle m'aime. Nous restons des heures ainsi à nous regarder. Nous apprenons la déclaration de guerre. Mes parents veulent rentrer. Je suis désespéré, elle aussi. Décidons de nous enfuir tous les deux pour le Portugal pour ne plus nous séparer. Quand il faut de l'argent, je vole une montre à mon père. Il s'en aperçoit, prévient les gendarmes. Moi, je ne sais rien. Je retrouve ma bien-aimée et nous partons à pied pour la frontière sans rien que la montre. Nous marchons deux jours. Un matin, que nous dormions dans les bras l'un sur le côté de la route, nous sommes réveillés par les gendarmes qui nous ramènent chez nous. Mon père est furieux de cette histoire, il me flanque une belle raclée et reprend la montre. Le père de la jeune fille l'a reprise et décide de l'enfermer dans un couvent. Voilà la pension en arrivant en France. J'ai le corps brisé, malade. Je veux mourir. C'est mon premier chagrin d'amour. J'étais mis en pension. Je ne l'ai plus jamais eu de nouvelles de la jeune Espagnole. Il a fini de résumer cette histoire. Je crois que ça fera un bon petit roman. Il ne reste plus qu'à développer tout ça. C'est mieux qu'un souvenir. Ne pas oublier de bien décrire les troubles de l'adolescence, les rires, le corps qui se développe, le besoin de liberté. Prenons le temps, décrivons le plus possible de troubles. La surprise de voir ses poils pousser, les nuits, la honte d'être grand, et les premiers émois. Ne pas se rendre compte au début que c'est de l'amour, un amour troublé par les désirs difficiles à cacher, etc. il écrit tous les soirs dans sa chambre. Une fois que c'est fini, il donne le roman à lire à Mathilde lorsqu'ils prennent le thé ensemble. Il lui dit en lui donnant « Si ça ne te plaît pas, je ne le ferai pas éditer. » Elle le lit, le trouve très beau. Mais est-ce vrai? Oui, mais ne sois pas jalouse. C'est une vieille histoire. Paul le fait éditer. Le livre, à cause de sa sensibilité, la description sans pudeur de la déliquescence avec ses troubles physiques et moraux, attire le lecteur, surtout les femmes. Enfin, elles vont savoir ce que ressent un jeune homme qui aime. L'histoire d'amour émouvante fait pleurer ces dames, ce qui fait rire ces messieurs et trouve le livre impudique et faux. Car ils ont honte d'avoir été ce jeune homme et veulent l'oublier. Ce livre le leur rappelle et montre au grand jour comment ils sont jeunes gens. Et montre comment ils étaient. Ils ont l'impression qu'on leur vole leur intimité. Le livre est décrié comme scandaleux, immoral par les hommes, et même pornographique et atteinte aux bonnes mœurs. Mais les femmes l'adorent et le lisent et en parlent. C'est un grand succès. Mathilde est heureuse, Charles-André aussi. Tous les gens veulent se l'arracher. Paul triomphe. Seule Apolline est triste, car elle se dit que le succès est pour Mathilde. À une de leurs promenades, Mathilde lui dit « Nous allons au moins nous voir pendant quelque temps. La cousine de mon oncle par alliance est en visite chez moi et elle restera quelques jours, le temps que je trouve un pensionnat dans Paris. Elle a 15 ans, mais désagréable au possible. » Il lui demande « Nous reverrons quand ? Venez demain pour le thé, je vous présenterai. » Et le lendemain, il est pour le thé, au salon Mathilde, lui présente la jeune fille. Une jeune fille grande, mince, blonde, de visage encore enfant et rieur. Elle porte une robe marine à col marin. Ils sont debout tous les trois au milieu du salon. « Monsieur Beaumandin, je vous présente Mademoiselle Adrienne. »« Mademoiselle, monsieur. » Ils vont s'asseoir pour prendre le thé. Mathilde va s'asseoir en face des deux invités. Servant, elle dit à Charles-André, Mathilde habite la Bourgogne, une charmante petite hameau dans un château du 18e. Elle ne se rend pas compte de la chance qu'elle a de vivre dans un endroit aussi beau. Il y a, Adrien lui coupe la parole. Je n'aime pas la campagne. En France, il n'y a qu'à Paris que l'on peut vivre. Mathilde lui dit, tu auras bien vite assez. Adrien hausse ses épaules et répond, sûrement pas. Et puis, je veux monter une maison de culture plus tard. Mathilde lui dit, c'est pas sérieux. Et puis, ce serait bien la première fois qu'une Saint-Aubin se lance dans les affaires. Une jeune fille comme il faut cherche à se marier. Mais cela ne m'empêchera pas de me marier. Il n'y a que très peu d'hommes qui acceptent que leur femme travaille. Elle hausse les épaules et dit, peut-être à votre époque, n'est-ce pas, monsieur Beaumandin, que cela ne gérerait pas que votre femme travaillât. Mathilde dit vexée. Ne sois pas un peu lié avec monsieur Beaumandin. Monsieur Beaumandin n'a que faire de tes impertinences. C'est un écrivain très apprécié. Il écrit des choses sensibles et intelligentes sur les dames. Adrienne lui dit, pardonnez-moi, je ne savais pas. Je croyais que c'était un jeune homme d'une de vos amies. Je ne pouvais pas penser, vu son jeune âge, que monsieur écrivait. Pardonnez-moi, monsieur. C'est pas grave. Et puis, ne m'appelez pas monsieur. Appelez-moi Charles-André. Vous écrivez quoi, monsieur ? Mathilde lui répond. Des choses qui ne sont pas pour les jeunes filles. Je ne suis plus une enfant tout de même. Charles-André lui dit. Je vous ferai parvenir mes nouvelles, si madame me le permet. Mathilde soupire et dit, 20 fois, si vous le voulez. Après une minute de silence, Charles-André demande, et que veut faire mademoiselle comme étude ? Adrienne lui répond, mes parents veulent que j'apprenne la littérature. Le français, l'anglais, que je me perfectionne en latin et en grec, et pour finir le dessin. Mais comme... je veux créer des robes, je me présenterai à une maison de couture en plus pour apprendre le métier. Mathilde lui dit, c'est beaucoup trop, tu n'arriveras jamais à apprendre tout ça. Et puis tes parents m'ont demandé de te trouver un pensionnat. Tu leur diras qu'il n'y a plus de place et que tu as été obligé de m'inscrire externe. Que cela, je pourrais aller à la maison de couture entre les cours. Et où te logeras-tu ? Adrienne hausse les épaules et dit, eh bien ici, ne me demande même pas moi si je peux. Nous reparlerons de ça plus tard. Mathilde est furieuse. Elle n'a pas du tout l'intention d'avoir constamment auprès d'elle Adrienne. Surtout, cette jeune fille ne lui plaît pas. Pas du tout. Ce, à ton époque, lui a fait beaucoup de mal. Puis cette fille... Pour cette fille, je suis vieille. Et elle et Charles-André sont les jeunes, ceux à qui on doit céder la place. Charles-André, lui, est ébloui par cette jeune fille. Il trouve si fraîche de caractère et si jolie. Elle ne ressemble à... rien à ces femmes qu'il connaît. Même sa sœur fait vieille. Quelle vitalité est là ? Il ne se rend pas compte que lui est plus près des femmes mûres et de sa sœur par le caractère, car il est lent, peureux. Sans sa sœur, il serait encore à Lyon, dans sa chambre, à rêver. C'est un vieux jeune garçon qui est ébloui par son contraire. Après avoir pris leur thé, Charles-André se lève et leur dit, je dois malheureusement vous quitter. Elle se lève. Adrienne lui dit, déjà, oui, j'ai un rendez-vous, mais je viendrai, mademoiselle. Bien entendu, si madame de Saint-Auban le permet. Oui, bien sûr, Adrienne lui dit, n'oubliez pas de m'amener vos livres. Mathilde lui dit, cela ne presse pas, Charles-André dit, je vous ferai parvenir. Et il se dirige vers la sortie de la pièce. Avant, de l'équité, il demande à Mathilde. « Nous reverrons quand ?»«
Je ne sais pas. »
Elle soupire et poursuit.
« Avec cette petite peste, je vous ferai parvenir un rendez-vous. »
Et il se quitte.
Charles-André est ébloui par cette jeune fille si fraîche, si moderne. Charles-André envoie ses deux livres à Adrienne et attend. Apolline s'ennuie. À faire, ce n'est pas facile de devenir comédienne, surtout si on n'a rien fait. Alors, pendant que son frère est enfermé dans sa chambre à essayer d'écrire, car lorsque l'on a du succès, l'on vous demande toujours et encore de nouveaux écrits, mais le cerveau, lui, n'arrive pas à prendre le rythme. Ce n'est pas facile de trouver constamment de nouveaux sujets. Donc il essaye d'écrire dans sa chambre et sa sœur dans la sienne. Comme elle n'a rien à faire, elle passe ses journées à lire en se disant que la vie à Paris n'est pas drôle du tout. Elle pourrait, comme sa mère, organiser des soirées maintenant que son frère est une personnalité, mais ne sont pas assez riches. Paul leur paye leur loyer, dépenses de nourriture, habits et les éditions de livres, mais il ne peut pas faire plus. Adrienne a reçu le paquet de Charles André. Elle va les défaire dans sa chambre toute heureuse. Elle trouve Charles-André très beau et il est merveilleux, si jeune qu'il ait du succès. Elle se dit que ce doit être une personne hors du commun. Elle ouvre amoureusement les deux livres, fière de connaître la personne qui a écrit cela.
C'est la première fois que je connais une personnalité. Elle ne sait pas quel livre prendre en premier. Et décide de lire la première nouvelle qu'il a faite. Il va s'asseoir sur une chaise près de la fenêtre.
Mathilde est dans sa chambre. Elle a vu qu'Adrienne avait reçu le livre. Les livres, plutôt. Elle marche en faisant les 100 pas. Malgré elle, elle est attristée de savoir que cette fille va lire les livres de Charles-André. Elle en est même jalouse. Elle ne comprend pas pourquoi. Des centaines d'autres femmes l'ont lu. Elle n'était pas jalouse, elle en était même fière. Mais là, c'est parce qu'elle sait que c'est Adrienne qui le lit. Et qu'elle a un faible pour lui. Et qu'en plus, il y a cette intimité entre générations. N'a-t-elle pas dit, à ton âge, à Mathilde ? Oui, il y a une complicité dû à l'âge qui les rend plus intimes et qui exclut Mathilde. Par la faute de cette garce, pour la première fois de sa vie, elle se trouve vieille, reléguée dans le monde des personnes mûres. Elle qui, à l'intérieur et à l'extérieur, se sent toujours jeune et belle, elle qui savait qu'il y avait une différence d'âge avec Charles-André, mais se croyait encore de son côté, là, c'est à cause de l'eau de pain bêche. Elle bascule dans le monde des plus âgés. Elle pense à tout ça
et ça lui fait mal, très mal. Et plus ça lui fait mal, plus elle se rend compte qu'elle aime Charles-André, car elle a peur de le perdre définitivement à cause de son âge. Plus elle souffre pour elle-même, plus elle souffre de le perdre. Adrienne a lu les nouvelles de Charles-André et les a trouvées très belles. Elle trouve merveilleux qu'un jeune homme ait écrit de si jolies choses. Elle le dit en dînant avec Mathilde dans la salle à manger. Mathilde lui dit « Il ne faut pas exagérer, ce sont de bonnes nouvelles, oui, mais il y a mieux. Et puis je trouve ces histoires un peu bouillonnes. » Adrienne lui dit « Moi, je trouve pas. C'est très près de la sensibilité féminine. Et qu'est-ce que tu en sais ?» Adrienne lui répond « Mais je suis une femme. » Mathilde lui répond « Presque. » Adrienne lui dit, après une seconde de silence « Oui, bien sûr. À ton époque, on n'écrivait pas des choses comme ça. Ça aurait été choquant, je te comprends. Mais les choses ont changé. À notre époque, nous n'avons plus honte d'être des femmes et demandons à être tout comme les hommes. Une femme a autant le droit d'être amoureuse qu'un homme et un homme d'une femme. Et elle a le droit à ne pas avoir honte de son corps. » Radio Canu vous a présenté dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Julien Jean-Pierre, Les délires de la sublimation, dont c'était la 14e partie. Production, mise en scène, Julien Jean-Pierre, enregistrement CVRP.
La CVRP, cinéma, vidéo, radio production, vous a présenté une cassette OB.
Canu.
La radio utile.